Combien dans les choses humaines la fortune a de pouvoir et comment on peut y résister? Ne pouvant admettre que notre libre arbitre soit réduit à rien, j'imagine qu'il peut être vrai que la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais qu'elle en laisse à peu près l'autre moitié en notre pouvoir. Je la compare à un fleuve impétueux qui, lorsqu'il déborde, inonde les plaines, renverse les arbres et les édifices, enlève les terres d'un côté et les emporte vers un autre. Tout fuit devant ses ravages, tout cède à sa fureur, rien n'y peut mettre obstacle. Cependant, les hommes ne laissent pas, lorsque l'orage a cessé, de chercher à pouvoir s'en garantir par des digues, des chaussées et autres travaux. Ce que je viens de lire, Valéry Niquet, ponctuer ou commenter le texte qu'on a entendu du Sun Tzu et de Machiavel. C'est dans Le Prince, c'est le fameux, très fameux, magnifique chapitre 25, dans lequel Machiavel fait la part belle ou formule ce qu'on appelle la virtu, c'est-à-dire l'art, effectivement, de saisir l'occasion par les cheveux, en l'occurrence, et d'accéder à la maîtrise des éléments du monde. Sun Tzu dit ceci, hein, « Il nous faut contrôler les facteurs de changement des circonstances ». Est-il abusif ou légitime d'établir une véritable filiation entre les deux démarches, même si Machiavel n'a peut-être pas lu Sun Tzu ?
Alors, Machiavel n'a sans doute pas lu, enfin même certainement pas lu Sun Tzu.
Qui n'existait qu'en chinois à l'époque.
Ouais. N'a été connu véritablement, enfin n'a été très peu connu, mais en tout cas traduit dans une langue occidentale qu'au XVIIe siècle par le père Amyot, dont la traduction d'ailleurs, en la réécoutant, quand vous la dites, me paraît finalement très très bien sur le fond. En tout cas, là, elle a été beaucoup critiquée. Il y a beaucoup de scories, évidemment, dans cette traduction, mais le fond est bien là. En tout cas, on trouve la même logique chez Machiavel et chez Sun Tzu, encore une fois, qui est...
logique ambivalente, hein, parce que c'est de soumission et de maîtrise de la fortune.
Exactement, mais en même temps, l'idée, au-delà de principes supérieurs, moraux ou autres, est bien tout simplement de réfléchir aux calculs, aux circonstances, comment transformer la réalité, justement, non pas en attendant un mouvement divin quelconque, peut-être, mais en tout cas, savoir utiliser les éléments à son propre profit, comprendre comment ils fonctionnent, et surtout comprendre comment l'ennemi fonctionne. Et ça, c'est un élément très, très important. Donc, filiation, peut-être pas, mais en tout cas, même logique dans la réflexion. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, aussi bien d'ailleurs en Chine...
Ils s'inscrivent tous les deux dans la perspective d'unification d'un royaume.
Voilà, exactement. Et puis, il s'adresse aussi
à... Le chapitre 25 chez Machiavel, voilà, précède le chapitre « Une exhortation à délivrer l'Italie des barbares ».
Exactement. Et c'est aussi l'Italie. C'est aussi s'adresser à un prince dans un espace divisé, enfin, morcelé, comme l'était d'ailleurs la Chine des royaumes combattants. Et comment donner à ce prince les techniques, en quelque sorte, le moyen de survivre et de gouverner d'une manière efficace, encore une fois. Donc ça, c'est très important. Le deuxième élément commun, c'est que les deux ont été soumis à une critique très forte des moralistes. Machiavélique en Occident, ça n'est pas très positif, même si c'est efficace. Et Sun Tzu a été très, très critiqué ensuite par les confucianistes officiels, entre guillemets, en tout cas. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui était guerrier était un signe d'échec, en fait, dans l'Empire. Et tout simplement parce que les rites n'étaient plus respecté, l'empereur ne fonctionnait pas, ne mettait pas...
De là la critique des Confuciens, hein, c'est l'irrespect des rites.
Et surtout l'irrespect des rites, et puis l'absence de morale, encore une fois, ce chapitre sur les espions, tromper l'ennemi, ruser. Sun Tzu a cette phrase extraordinaire et totalement vraie, la guerre c'est l'art de duper, c'est la ruse, fondamentalement. C'est comment ruser avec l'ennemi, comment ruser avec ses propres soldats, comment ne pas obéir à son prince quand le prince donne un ordre ridicule pour le général sur le champ de bataille, donc une certaine autonomie des pouvoirs. Et tout ça a évidemment été profondément critiqué. Ça n'est pas moral.
Colonel, faut-il, puisque se lève le jour, faire battre tous les tambours, réveiller tous les pendours? Colonel, faut-il faire sonner tous les clairons, rassembler les escadrons? Colonel, colonel, nous attendons
C'était passionnant de parler avec vous, Valérie Niquet. Cette conversation s'achève au moment où elle commence, comme toutes les bonnes conversations. Je renvoie à votre traduction, à votre édition critique, donc de l'Art de la guerre. Le Sun Tzu, c'est chez Economica. Je renvoie également, même si elle coûte 30 euros de plus, mais enfin l'édition est sublime. Sun Tzu, l'Art de la guerre, traduit du chinois et commenté par Jean Lévy. Et je signale donc qu'il existe une troisième traduction du Sun Tzu. C'est la traduction du Père Amiot. Elle date de 1772, mais vous nous avez dit vous-même que c'était pas si mal.
Colonel, faut-il, puisque voilà l'ennemi, faire tirer notre artillerie, disposer notre infanterie. Colonel, faut-il charger tous comme des fous ou partir à pas de loup? Colonel, colonel, dites-le nous.